Sixième partie. Tragédie. Chapitre 1. La petite maison grince sous le choc, réveillée en sursaut d'un long sommeil, ses articulations rouillées par l'arthrite, brusquement consciente de son grand âge et de la fragilité de ses os. Jane voulut s'extraire des ruines de la cuisine, mais la porte refusa de s'ouvrir, la façade arrière entièrement déformée. Elle rengaina son arme, saisit la poignée à deux mains et s'arc-bouta de toutes ses forces, en vain. La porte refusait de bouger d'un millimètre. Les petits carreaux de la porte n'étaient pas assez larges pour qu'elle puisse se faufiler à travers, même en brisant les croisillons. Ceux de la fenêtre qui s'ouvrait au-dessus de l'évier étaient trop épais. Elle perdrait de précieuses minutes à les démolir avant de pouvoir se glisser à travers le châssis. Elle tenta à nouveau sa chance en s'escrimant sur la porte qu'elle secoua dans tous les sens. Le plafond du salon s'était effondré sur le camion poubelle. Mais le conducteur de l'engin n'avait pas perdu connaissance. Il enfonçait rageusement la pédale d'accélérateur, persuadé que les roues avant du véhicule parviendraient à se libérer des solives du plancher qui les emprisonnaient. Le moteur hurlait en faisant trembler la carcasse de la maison, au risque de provoquer son effondrement. Jane épongea son front avec la manche de son blouson afin de chasser la transpiration qui lui brûlait les yeux. Elle avait été formée à la gestion des situations de crise. Elle était née pour ça. On lui avait appris à imaginer des solutions, à déjouer les plans tortueux des salopards des deux sexes qui voulaient l'éliminer. Mais pas à se sortir d'un chaos pareil, provoqué par un fou aux réactions imprévisibles. Pour une fois, l'intelligence et la réflexion ne lui procureraient pas nécessairement la solution. De toute façon, son ennemi immédiat était la maison. Les armes à feu et le combat à main nue ne lui étaient d'aucune utilité face à un adversaire inanimé. Elle envisagea un instant de retourner dans ce qui restait du salon et d'abattre le conducteur à travers le pare-brise. Mais le plafond et le grenier s'étaient effondrés sur la cabine et il était peu probable qu'elle puisse l'atteindre. Sans parler des débris qui continuaient de s'abattre au niveau de la partie avant de la maison, au risque de la tuer. Le garage. Jamais l'électricité n'aurait survécu à ce désastre et le moteur de la porte ne fonctionnerait plus. Mais il était possible de soulever manuellement le lourd battant sur rail. Jane se précipitait vers la porte devant laquelle elle avait placé un morceau de verre, lorsque le conducteur du camion, emporté par la folie, fit rugir son moteur de plus belle, refusant cette fois de lâcher la pédale d'accélérateur. Le rugissement du camion, perdant toute prétention mécanique, semblait sortir tout droit de la poitrine d'un monstre du Jurassique, hurlant sa fureur face à un monde dénué d'intelligence dans lequel n'avaient leur place que la férocité et la force brute. Le salon et la cuisine se retrouvèrent noyés au milieu d'un nuage nauséabond d'échappement bleu pâle. Les planches de contreplaqué recouvertes de linoléum tanguèrent sous les jambes de Jane, comme des plaques tectoniques décidées à déchirer un continent en faisant surgir des montagnes là où s'étendaient autrefois des plaines infinies. Elle atteignait la porte du garage lorsqu'une secousse plus marquée fit trembler la carcasse de la maison en provoquant des craquements inquiétants. Au moment où Jane croyait voir le sous-sol engloutir le camion tout entier, c'est le garage qui se détacha du reste du bâtiment et s'effondra. Une lourde poutre s'écroula au milieu des gravats, frôlant Jane qui avait eu le réflexe de se jeter sur le côté en la voyant s'abattre sur elle. La masse des tôles ondulées aux bords tranchants qui coiffaient le garage bloquait définitivement sa retraite. La maison trembla, les fenêtres explosèrent, le vieux robinet de l'évier s'arracha et un puissant jet d'eau jaillit du tuyau. Dans le salon, le camion poubelle rugissait toujours en vomissant des gaz d'échappement. Le faux plafond de la cuisine s'effondra, le plancher tanga et la porte arrière trembla à l'intérieur de son chambranle. Si elle était toujours coincée, elle ne tremblerait pas de la sorte. Le battant a dû se débloquer sous le choc. Jane enjamba la poutre, tira la poignée de toutes ses forces et le battant s'ouvrit soudainement. Elle se rua à l'extérieur, traversa la véranda d'un bond, vola au-dessus des marches, recracha les gaz d'échappement qui lui brûlaient les poumons et avala goulûment une longue bouffée d'air. Merci, 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 murmura-t-elle machinalement à voix haute. Le Suburban noir la rejoignit au même moment. Jane s'en approchait en courant lorsqu'un hélicoptère noir survola les ruines de la maison à une cinquantaine de mètres de hauteur. Elle leva la tête en se protégeant les yeux avec la main et vit l'appareil s'éloigner vers l'est avant d'exécuter un demi-tour. Luther freina à côté de Jane. Elle ouvrit la portière côté passager sans monter à bord, continuant d'observer l'appareil. Il s'agissait d'un Airbus H120 de fabrication canadienne, capable d'emporter 4 passagers en plus du pilote. Un hélicoptère couramment utilisé par les agences gouvernementales américaines. Luther, descendez de voiture ! Lui ordonna-t-elle d'une voix inquiète en voyant s'approcher l'appareil. Que se passe-t-il ?
Descendez ! Vite ! Uniquement vous, Luther ! Surtout pas Cornell et Travis !
À l'intérieur de la maison, le camion poubelle rugissait toujours en provoquant de nouveaux dégâts. L'hélicoptère se trouvait à présent à moins de 500 mètres. Luther bondit hors du Suburban et regarda Jane par-dessus le toit du véhicule.
Que fait-on ?
L'Airbus était tout prêt.
Faites leur signe !
Luther se tourna vers l'appareil.
Adressez-leur des signes. N'oubliez pas qu'il est écrit FBI en gros sur le toit. Nous ne sommes pas en train de quitter les lieux. Nous venons d'arriver sur place. Nous sommes venus voir de quoi ils retournaient.